Œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Tout cela nous semble barbare. La loi du talion nous apparaît comme l'exemple même d'une justice sauvage et impitoyable. Mais il convient de se souvenir du contexte de l'édiction de cette loi. Le peuple hébreu qui traverse le désert n'a plus aucune structure sociétale. Il a quitté un monde dans lequel il était soumis à la juridiction égyptienne. Et l'organisation en société structurée n'arrivera qu'au temps de l'installation au pays de Canaan. Entre deux, le peuple erre. Mais cette traversée dure, 40 ans tout de même, et la nécessité de se structurer devient indispensable. La loi est reçue alors comme un don de Dieu. Les 10 commandements ainsi que toutes les règles édictées permettent à ces hommes, ces femmes et ces enfants, à toute cette société humaine de vivre ensemble. Moïse incarne cette figure d'autorité. Par lui, le peuple a reçu de Dieu la loi qui offre le cadre au milieu duquel la vie peut s'épanouir. La loi est un don, et Dieu en donne les grands principes. Il relève ensuite de la responsabilité des êtres humains d'en décliner les usages. Nous pouvons lire dans les premiers livres de l'Ancien Testament cette volonté de l'application de la loi aux réalités du peuple. De longs chapitres, des livres de l'Exode, du Deutéronome, du Lévitique et des Nombres y sont consacrés. Bien entendu, il nous faut nous garder de faire un usage inadéquat de ces passages en prétendant que ce sont des lois à appliquer à la lettre. On ne met pas un homme à mort en le lapidant parce qu'il a ramassé du bois un jour de sabbat. Et pourtant, c'est prescrit dans le livre des Nombres. De même, il nous arrive de consommer de la viande des animaux qui ruminent ou qui ont des sabots fendus, alors que le Lévitique est très précis à ce sujet. Pourtant, en agissant ainsi, nous ne contrevenons pas à la volonté divine. La loi du talion n'est pas à prendre au mot. Le sens de cette loi est de circonscrire le besoin de justice et de réparation de celui ou de celle qui a été lésé. Pour un œil, tu ne peux exiger rien de plus qu'un œil. L'objectif est d'effacer l'ardoise du tort causé pour permettre à la relation d'être à nouveau possible. La loi du talion met un terme à l'escalade de la violence qui, elle, ne se terminera jamais et rend le retour à la relation impossible. Elle extrait le besoin de réparation du lésé du système de la vengeance pour l'ancrer dans celui de la justice. Et elle inscrit le principe d'équivalence entre le préjudice et la réparation. En ce sens, la loi du talion est un garde-fou précieux. Elle joue parfaitement le rôle de cadre au milieu duquel la vie en société devient possible. L'Ancien Testament, c'est le régime de la loi. Le Nouveau, le régime de la grâce. En Jésus-Christ, la loi est surpassée, c'est là le cœur même de la foi chrétienne. Dans ce passage de l'Évangile de Matthieu, communément appelé le Sermon sur la montagne, Jésus réinterprète la loi de l'Ancien Testament et la place dans cette nouvelle lumière qui est celle de la grâce. Vous avez appris, mais moi je vous dis. Les paroles de Jésus s'inscrivent dans un contexte tout à fait différent de celui duquel les lois de l'Ancien Testament avaient été dictées. Jésus vit, lui, dans un monde juridiquement très organisé. Le rapport à la justice est donc tout à fait différent. Non seulement il convient de relire la loi pour qu'elle fasse sens dans ce monde nouveau, mais sa mission est aussi de faire connaître Dieu au monde différemment que par le don de la loi. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas rendre le mal par le mal. De même qu'il ne convenait pas d'appliquer à la lettre les prescriptions de l'Ancien Testament, de même il ne faut pas prendre à la lettre les recommandations de Jésus. Attachons-nous à l'esprit plutôt qu'à la lettre. En évoquant l'autre joue, Jésus propose un autre chemin que la confrontation. Un moyen de lutter contre le mal et de ne pas lui offrir ce qu'il cherche, mais de le désarmer par une attitude inattendue. En laissant prendre le manteau en plus de la tunique, c'est se laisser mettre à nu et exposer ainsi aux yeux de tous l'injustice dont on est victime. En portant la charge d'un autre sur 2 kilomètres plutôt qu'un seul, c'est lui dire en substance « Je ne porte pas parce que tu m'y obliges, mais parce que tu es fatigué et c'est toi qui as besoin de moi. » Les 3 exemples que cite Jésus ont ceci de commun. Tous 3 induisent un changement de regard. Par son attitude, la victime est grandie et l'oppresseur désarmé, puisqu'il n'occupe plus une posture supérieure. Ce sont des situations pratiques qui illustrent cette parole de l'apôtre Paul « Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois au contraire vainqueur du mal par le bien. » Dans la suite du discours, on passe à un niveau d'exigence supérieur. Vous avez appris, mais moi je vous dis, vous avez appris qu'il a été dit « Tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi, mais moi je vous dis « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » La barre est placée haut. Pour commencer, il est important de signaler qu'haïr son ennemi n'est pas un commandement de l'Ancien Testament. La loi de l'amour du prochain existe bien, mais elle n'est pas suivie par la deuxième partie. Et s'il est vrai qu'il existe des lois très dures contre les ennemis, des textes de vengeance et même des appels au massacre, l'Ancien Testament comprend aussi des lois favorables aux ennemis, telles que lorsque tu trouveras le bœuf de ton ennemi égaré, tu le lui rapporteras, ou si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Aimer ses ennemis, quel défi! Le week-end dernier, j'étais en camp avec des jeunes moniteurs et monitrices de catéchisme et nous avons discuté de ce texte. La tentation est tout de suite d'arrondir les angles. Au fil de la discussion, il est de moins en moins question d'amour. Le verbe aimer avait laissé place à tolérer. Au fil de la discussion, il est de moins en moins question d'ennemis. Ils ont laissé la place à ceux qu'on n'apprécie pas trop. Et cela demande un réel effort de se confronter à la radicalité du commandement « aimer ses ennemis ». Parce que, comme le dit le texte, « aimer ceux qui nous aiment, tout le monde peut le faire, même les gens sans morale ». L'amour des semblables relève de l'ordinaire. L'extraordinaire, lui, consiste à aller au-delà de l'amour des semblables. On ne peut comprendre cette exigence sans saisir qu'ici aussi il est question de changement de regard. De la même façon que la lecture de la loi du talion modifie le point de perception en relevant la victime par son action, elle devient ainsi plus grande en rendant le bien pour le mal. De même, l'amour de l'ennemi disloque le vis-à-vis brut de la confrontation entre deux ennemis en les plaçant tous deux sous le regard d'un seul et même Dieu. Autrement dit, si la relation directe de l'ennemi se situe sur le plan de l'horizontalité, le commandement d'amour place l'un et l'autre dans la verticalité du rapport à Dieu. Si je me reconnais comme enfant de Dieu, alors je dois reconnaître aussi dans l'autre sa qualité d'enfant de Dieu. Et si l'autre et moi sommes au même titre enfants du même Père, celui qui fait lever son soleil sur lui et sur moi, celui qui fait tomber la pluie sur lui et sur moi, alors mon regard sur l'autre ne peut être que transformé. Le commandement d'amour de l'ennemi implique un changement radical de posture et de regard que je porte sur l'autre. La question de la définition de l'ennemi est toujours difficile. Peut-être que ce terme n'évoque pas de situation concrète pour vous, tant mieux, dirais-je. Pour les jeunes, ce n'était pas facile en tout cas de trouver des exemples concrets. Il y a bien des gens qu'on aime moins, mais de là à parler d'ennemis... Les ennemis sont parfois collectifs. C'est le cas dans les conflits armés où la haine pour l'autre n'est pas le fruit d'un différend personnel, mais de l'appartenance à un groupe. Mais hors des zones de guerre, il y a aussi des affrontements, moraux, juridiques, familiaux, des conflits de voisinage, des relations professionnelles toxiques, des rancœurs, des jalousies. Il y a des gens qui ont eu des paroles blessantes, parfois intentionnellement, parfois non. Il y a des gens qui usent nos nerfs, et d'autres qui ont accompli des actes que l'on ne parvient pas à pardonner. Ne serait-ce pas d'une certaine manière nos ennemis? Il y a des gens qui sont difficiles à aimer. Et ce que demande Jésus, ce n'est pas de développer à leur endroit des sentiments nobles, mais de changer de regard. Il ne m'est pas demandé d'aimer mon prochain, ni d'aimer mon ennemi parce qu'il est aimable, mais parce qu'il est ce frère, elle est cette sœur, pour laquelle le Christ est mort autant que pour moi. Et s'il n'est pas toujours possible d'aimer ou de pardonner, il est toujours possible de prier Dieu de le faire. Demander à Dieu d'aimer ou de bénir celui que moi je peine à aimer. C'est déjà un sacré chemin. Celui qui nous sort de la confrontation directe et laisse à Dieu l'opportunité de prendre sa place dans l'équation. Soyez donc parfaits comme votre Père qui est au ciel est parfait. Ainsi se termine ce passage, mais la perfection fait peur. N'osons pas avoir la prétention de viser la perfection sans craindre d'être orgueilleux. Pourtant, la perfection dont il est question chez Matthieu n'est pas une perfection morale. Effectivement, qui d'entre nous pourrait y prétendre ? La perfection consiste ici en une unité entre ce que l'on croit et ce que l'on vit. Être un, en accord avec soi-même, ajusté. L'amour des ennemis n'est ni une utopie, ni une attitude pieuse de façade à adopter. Ce n'est pas le but à atteindre, mais le résultat d'une nouvelle vision de la réalité, une vision du monde qui prend vraiment en compte la présence de Dieu. Amen.